cours de critique par le père Philippe à Saint-Joseph le 18 mars 1987.
Le croyant doit toujours être capable de témoigner de sa foi et de pas sa voix, mais son attitude prudentielle au service de la foi. Alors, au point de vue critique, on essaie de découvrir, de fait, la structure de mes diverses opérations intellectuelles. Et je vois qu'en effet, il y a trois opérations intellectuelles. Mais au point de vue critique, je veux déterminer l'ordre de ces trois opérations. L'ordre génétique et l'ordre de nature. Puisque de fait, je suis obligé, dans toutes les choses humaines au plan philosophique, de toujours respecter ces deux ordres. Étant donné que je n'ai pas une intelligence intuitive. J'ai une intelligence qui devient... Chacun d'entre nous, nous devenons intelligents. Après beaucoup de mal, devenons intelligents. Alors, il faut, au point de départ, avoir suffisamment de désir pour devenir intelligent. C'est difficile, c'est pas commun, mais on devient intelligent. Ça pousse. Il faut y croire au début. Puis alors, petit à petit, on comprend un tout petit peu. Mais c'est vrai. Parce que j'ai conscience du jugement, que le jugement ne peut pas être l'élément. L'élément, c'est l'appréhension. Donc je découvre le numéro 1 comme un élément, non pas du tout comme une opération à partir de laquelle vont se structurer les autres, mais un élément fondamental. Et je passe du jugement à l'élément, puis je reviens de l'élément au jugement. C'est normal. Et j'essaie de comprendre le lien qui existe entre cet élément et ce jugement. Le jugement, il découvre le nom et le verbe. Ceci est. Je vois tout de suite qu'il y a trois aspects. L'appréhension, saisie. C'est vrai, animal est saisie d'une manière universelle. Et la signification de ce terme générique est universelle. Et puis, le nom qui est concret. C'est pas universel, ceci. C'est quelque chose de concret. C'est la substance première. Aristote dans ses prédicaments. Puis le verbe. Il y a donc trois choses. Or, on dit toujours deux. Il y a trois choses quand même. C'est même très curieux. Mais comment la dialectique peut facilement naître à partir de là? L'opposition de l'universel et du concret. L'universel soit concret. Rejoint l'universel par le concret. De l'universel rejoint le concret. C'est ça la hantise hegelienne. Et je comprends très bien. C'est donné tout de suite. Il y a ce passage du terme au nom et au verbe. Alors comment expliquer ça? Je le constate. Constater, c'est très bien. Je pourrais dire tout simplement, mais quand on constate, vous voyez, c'est pas suffisant, parce qu'on vous donnera des explications qui ne seront pas justes. Alors il s'agit de comprendre, est-ce que le terme simple, animal, va venir le nom concret par lui-même? Et vous voyez, en plus, ce que je vous avais dit la dernière fois, la fameuse thèse scolastique, en disant le thomisme saisit en premier l'universel, dont Scott, le singulier, voilà, le tour est joué. Alors on met l'universel, et ça devient en opposition. Comme si les thomistes étaient tous, premièrement, des logiciens. Puisque saisir en premier l'universel, c'est la logique. L'universel, c'est un être de raison. L'universel, c'est un être de raison. Et si je suis en face d'un être de raison, un être de raison, par définition, n'existe pas, ou plus exactement, n'existe que dans la pensée. Et donc, si le thomisme, c'est saisir en premier lieu l'être de raison, je n'en sors pas. Ça, c'est un calme. Pour Occam, je saisis en premier lieu l'universel. Alors, comment expliquer ça? C'est que justement, le jugement, et je prends le jugement d'existence, ceci est. Le jugement me fait atteindre tout de suite l'exister, le verbe. C'est le verbe qui est premier. Ceci, comme nom, comme substance première, implique l'exister. Je ne peux donc saisir le concret que par l'exister. Le concret, par définition, c'est ce qui existe. Vous n'avez jamais vu, seul le singulier existe. Seul le concret existe. Si ça n'existe pas, c'est donc pensé par l'intelligence, et donc ça. Substance première, substance seconde. la saisie du verbe, la détermination saisie dans l'appréhension devient concrète. Je saisis de nouveau la détermination dans l'aspect concret. Ça, c'est vrai. Par le verbe. La détermination est présente, donc l'appréhension est présente. Mais ce n'est pas l'appréhension qui explique le jugement. C'est le jugement qui oblige de poser l'appréhension. Et c'est le jugement qui me fait comprendre le passage de l'abstrait au concret. C'est par le verbe que je vois le passage de l'abstrait au concret, de la détermination quantitative au ceci. Et cela ne peut se faire que par le verbe. Le verbe seul permet ça. Ça, je crois que là, je suis en présence des trois. J'explique comment par le verbe je rejoins le nom. Et entre le verbe et le nom, comprenons bien que le nom implique une détermination. Cette détermination, c'est à une signification propre. Et cette signification exprime la quiddité. Donc, tout nom implique une détermination. Tout nom assume la quiddité. Mais ce n'est pas la quiddité en tant qu'elle est appréhendée. C'est la quiddité saisie concrètement dans le nom. Et ceci se fait grâce au verbe. Vous voyez donc tout de suite l'erreur de faire que de l'appréhension je passe au jugement simplement en additionnant ce que fait Occam. À partir de ce moment, quand je conçois le jugement de cette manière-là, le point de vue de l'essai disparaît. Le point de vue du verbe disparaît. Et je suis uniquement dans les idées. Et je ne peux jamais rejoindre l'exister. Et je fais une philosophie essentialiste, comme on dit. Une philosophie des essences. Vous savez bien, c'est le grand reproche qu'on a fait à la scolastique. Au moment de l'existentialisme, Maritain a voulu montrer que de fait, le thomisme était existentialiste. Le thomisme n'est ni essentialiste, ni existentialiste. C'est la philosophie de ce qui est. C'est très important. Je ne réponds pas à l'essentialisme par l'existentialisme. Je réponds à cette opposition de l'essentialisme en disant c'est vrai. Dans la mesure où le thomisme s'est laissé contaminer par Occam, donc dans la mesure où il était suarésien, le thomisme va vers l'essentialisme. C'est la grande critique qu'on avait au père Garrigou. Et c'est vrai, le père Garrigou tombe dans l'essentialisme, c'est très vrai. Et Maritain a voulu répondre par l'existentialisme du thomisme. Il faut lire ce petit livre de Maritain sur l'existentialisme du thomisme. J'étais à Fribourg quand c'est paru. Et le père de Ménas venait le recevoir. Un petit cadeau personnel. Alors il est venu frapper à ma porte. C'est merveilleux. C'est ça. Alors je l'ai lu tout de suite. Je retape à sa porte en disant non, ça va pas. Parce qu'on répond pas à l'essentialisme par l'existentialisme. Il faut redécouvrir le jugement d'existence. Le jugement d'existence est premier. Et c'est là où on voit la vitalité de l'intelligence. L'intelligence est faite pour ce qui est. Et tant que l'intelligence n'a pas saisi ce qui est, l'intelligence est une intelligence abstractive. Et alors, très très vite, on confond la pensée et la logique. la cérébralisation. Et on n'en sort pas. La cérébralisation, on n'en sort pas. Vous pouvez raisonner indéfiniment. Vous avez perdu le contact avec le réel. Et c'est ce contact avec le réel qu'on doit redécouvrir par le jugement d'existence. Pas par les sensibles. C'est pas suffisant, les sensibles. Je ne redécouvre pas la réalité par les sensations. Je regrette. Les sensations, très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut dépasser les sensations dans le jugement d'existence. Oui, alors il y a deux manières de regarder le vitos. Philosophiquement, par le jugement d'existence. Et si vous restez uniquement dans la sensation, pour la sensation, vous rejetez pas le réel. Vous restez dans votre sensation. C'est très bien de sentir le chaud. C'est pas ça qui est intéressant. C'est de rejoindre l'eau qui est chaude. C'est de rejoindre ce qui existe. Parce qu'autrement, vous dites, je sens. Ben oui, sentir. Mais un animal aussi sent. Et il reste dans ses sensations. Il faut dépasser les sensations pour le jugement d'existence. Et c'est ça qui est complètement perdu. Là, il faut le reconnaître. Alors vous voyez, en critique, c'est ça qui est important. Là, il y a un point critique qui est capital. Saisir ce point de vue-là, saisir comment le verbe être est saisi. Ceci est, il est touché. Le tingen, le toucher de l'intelligence. L'intelligence saisit cela. Et l'intelligence est capable, en saisissant ça, de comprendre. L'intelligence se dépasse puisqu'elle saisit l'autre. Et c'est le propre de l'intelligence de saisir l'autre. Tandis qu'au contraire, lorsqu'elle est dans l'appréhension, elle assimile. Je suis dans l'immanence. Le jugement d'existence me fait tout de suite atteindre quelque chose de transcendant. Et le transcendant, il est donné dans le ceci est. C'est le est qui transcende l'intentionnalité. Autrement, je demeure dans l'intentionnalité, je resterai indéfiniment dans l'intentionnalité. Et je comprends très bien comment Husserl dit la mise entre parenthèses de l'exister du jugement d'existence pour être dans l'intentionnalité. Si je mets entre parenthèses le verbe, je ne rejoindrai jamais le nom et je demeurerai dans l'appréhension. Et ça, c'est en cas. L'origine, c'est en cas. Et je demeure alors toujours dans les significations universelles. Et je demeure dans l'immanence. Tout le gros problème de Descartes, comment l'idée peut rejoindre le réel. C'est évident que si vous êtes enfermé dans la prison dorée, vous vous demandez comment vous pouvez rejoindre le réel. Parce que vous êtes dans l'intentionnalité. Si au contraire, vous avez compris qu'avant la découverte de l'intentionnalité, il y a le jugement d'existence, qui est la vie même de l'intelligence. C'est la vie même de l'intelligence. L'intelligence rejoint ce qui est. Et tant que l'intelligence n'a pas rejoint ce qui est, l'intelligence n'a pas rejoint ce pourquoi elle est faite. Ce pourquoi elle est faite. Voyez bien. Le point de vue de la fin, telos. L'intelligence est faite pour cela. Alors je commence à comprendre, voyez. L'adage que saint Thomas répète 175 fois ou 178 fois dans sa somme, dans tous ses écrits, primus cadit in intellectus ens. Et puis ça se chante, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, primo cadit in intellectus ens. Il faut ce qui est. Voilà ce que l'intelligence saisit en premier lieu. C'est pas l'appréhension, c'est le jugement. Mais ça présuppose une appréhension. C'est sûr, ça présuppose une appréhension. Et l'appréhension n'est qu'un élément, condition sine qua non. Pour qu'il puisse y avoir un jugement, il faut qu'il y ait une appréhension. Mais une appréhension très faible. Très faible. Ceci. La vache. L'anima. Le tout confus. Ceci. Très très faible. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est... Eh, voilà. Ils te connaissent. Voilà ce que l'intelligence saisit en premier lieu. Mais ça, c'est très très important de saisir ça. Alors, on peut aller plus loin et se demander, mais comment ça se fait ça? Donc, j'ai démoli le schéma camien qui dure jusqu'à Husserl en passant par Descartes et qui est dans la plupart d'aujourd'hui. Ils ne sont pas Saint-Thomas, ils sont Occamiens. Ils confondent logique et métaphysique. Ils n'ont jamais saisi ce que c'était que la métaphysique. Alors moi, je comprendrais bien, hein, si je confonds la logique et la métaphysique. J'en ai soupé la logique très vite. Et j'aime mieux la féminologie. C'est au moins un vécu beaucoup plus riche que la logique. Entre la logique et la phénoménologie, j'opte pour la phénoménologie. Oh, je n'hésite pas une seconde. C'est du vécu. Vous voyez, le singulier vécu. C'est le vécu, c'est toujours du singulier. Vous avez vécu un accident. C'est tout à fait singulier. C'est pas universel. Et c'est ça qui vous intéresse, c'est le vécu affectif. Et le vécu affectif est bien plus riche que l'universelle logique, la toute raison. Parce que c'est très curieux, vous voyez. Pour quelqu'un comme Borensky, c'est les deux grandes philosophies d'aujourd'hui. La logique mathématique. Donc, on universalise la logique. Et puis d'autre part, la phénoménologie. Heureusement que l'option n'est pas là. Et je peux dépasser les deux. Et dire non, ce que je veux, c'est que mon intelligence vive. Parce que le vécu n'existe que dans la mesure où vous l'avez alimenté. Vous alimentez le vécu. Et vous ne pouvez alimenter le vécu que dans la mesure où l'intelligence saisit ce qui est. C'est pour ça, au-delà de la logique et de la phénoménologie, il y a la métaphysique de ce qui est. Et la métaphysique de ce qui est, c'est pour saisir l'homme dans tout son réalisme existentiel. Autrement, je ne l'ai pas saisi. Alors, je me pose la question, comment ça se fait? J'ai essayé, si vous vous souvenez, j'ai essayé d'expliquer l'appréhension par le point de vue de l'image qui est illuminée par l'intellect d'agent. Il ne faut jamais oublier ça, puisque l'appréhension est première d'une façon élémentaire. Elle est donc toujours présente. Je vais maintenant essayer d'expliquer comment ce terme universel peut, grâce au verbe, rejoindre le concret. C'est intéressant de voir comment je passe de l'universel au concret. Le grand problème hegelien. Parce que c'est ça que Hegel cherche. Éperdument. Hegel ne peut pas accepter la simplicité de c'est le souci. Ceci est. C'est-à-dire saisir la réalité concrète. Ce qui m'intéresse, c'est saisir l'homme concret. L'homme abstrait, moi, très très bien. L'homme abstrait, comme il n'existe pas, ça ne m'intéresse pas. Je laisse ça à la logique, animal raisonnable. Parce que la logique est toujours raisonnable. Elle est rarement animale. Elle est toujours raisonnable. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver l'animal, l'être sauvage, on voit très très bien. La réaction d'un merleau-ponty. Donc c'est de retrouver le concret. C'est ça qui m'intéresse, c'est de retrouver ce concret. Alors comment? Comment l'expliquer? Justement, je reviens à mon explication. C'est qu'en effet, c'est l'intellect agent qui a été le passage de l'image à la species impressa. Vous vous souvenez, hein? C'est-à-dire la forme intentionnelle. La forme intentionnelle qui détermine l'intellect dans sa réceptivité et qui permet l'assimilation. Tout ça est présent. Si c'est vrai, c'est présent. Évidemment, c'est quelque chose qui est construit, je suis tout à fait d'accord, mais c'est une hypothèse de recherche. C'est vrai, c'est une sorte d'hypothèse de recherche. Au plan critique, je me suis posé la question du comment. Comment j'ai connu champ. Comment j'ai connu animal. Vous avez connu animal de deux manières. D'abord parce que vous avez entendu parler de animal. Et à un moment donné, vous avez été intelligent. Vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est qu'animal? Et si personne ne pouvait vous répondre, vous avez regardé dans le dictionnaire. Ce qu'on fait quand on a un terme invraisemblable et nouveau, qu'on ne connaît pas, vite, 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 on l'écrit, puis on regarde un dictionnaire. Parce que si on le demande à son voisin, il dira, tu connais pas ça quand même, tu devrais le connaître. Alors on n'ose pas, et on regarde un dictionnaire. Et à ce moment-là, on a vu la signification de animal. Et puis vous avez essayé de comprendre, si vous avez été intelligent, vous avez essayé de comprendre par le mode d'expérience. C'est très bien de savoir ce que c'est qu'animal, mais je veux l'expérimenter. Vous avez compris ce passage du petit chat à animal. Du petit chien à animal. Vous avez compris ce que c'était que l'universalisation. On peut tous comprendre ça. C'est important de voir ça. C'est très très important, ce cheminement de l'expérience. De l'expérience concrète à animal. J'essaie de reprendre le jugement dans son contact direct avec la réalité. Ceci est. Je peux toujours revenir à ça. Ceci est. C'est l'intelligence en contact direct avec le réel. Et l'intelligence en contact direct avec le réel, ce réel, il m'est donné grâce aux sensations. Les sensations sont présentes. Et l'imagination est présente. Chaque fois que je dis « ceci est », je me sers d'une image. Ça, c'est sûr, je me sers d'une image. Je dépasse l'image puisque je veux être en présence de la réalité. Mais je me sers d'une image. Donc, je retrouve, vous voyez, cette chose très curieuse, que l'image va être la gare de triage. C'est l'image qui explique le passage du sensible à l'intelligible et qui va expliquer comment l'intelligible, toujours lié à l'image, est relié au concret, à ceci. C'est donc grâce à l'image que peut se faire l'aller-retour. Mais l'image éclairée par l'intellect agent. Je ne peux pas poser un jugement sans ce retour au réel. Mais quand je dis retour au réel, attention, dans le jugement, c'est quelque chose d'immédiat, c'est pas un retour au réel. C'est mon intelligence qui est dans dans son appétit foncier, dans son appétit naturel, adhère à ce qui est. Donc c'est pas un retour. C'est un retour pour celui qui a fait l'analyse de l'appréhension. Alors vous voyez, là, il y a un point très important de bien comprendre que je peux dire retour au concret dans la mesure où je suis dans l'analyse critique. Mais si je regarde ma vie intellectuelle, je dirais que ce retour, c'est pas un retour. Le jugement d'existence est immédiat. Ah, il implique une autolucidité. Donc, si l'autolucidité est un retour, je veux bien. Mais ce n'est pas un retour en ce sens que l'intelligence n'est pas déterminée avant de saisir le réel. C'est le réel qui détermine l'intelligence. Autrement, je retomberai dans le chemin camien. Et je dirai animal détermine mon jugement. Mais non, c'est pas animal qui détermine mon jugement. C'est ceci est. Et ceci, c'est le nom. Ce n'est pas animal, mais ceci implique animal. Alors vous voyez, c'est là la difficulté. Et c'est là où je crois que des quantités de thomistes, là encore, se sont trompés. Parce qu'ils ont fait de l'analyse critique la réalité. Alors que l'analyse critique n'est pas la réalité. La réalité est plus simple. L'analyse critique est en pleine lumière, comme toujours toute critique. Aussi bien l'analyse psychanalytique que l'analyse critique. Et là, il y aurait des analogies très intéressantes à faire. Quand le psychanalyste considère que son analyse psychanalytique est la réalité, il se met le doigt dans l'œil. Exactement comme le thomiste quand il considère que l'analyse critique, c'est la réalité. Toute analyse n'est jamais la réalité. Parce que c'est une analyse, la réalité, c'est le concret. C'est le concret singulier qui existe. Oui, toutes les erreurs psychanalytiques sont là. Et c'est difficile à faire comprendre ça, un psychanalyste. Et c'est très important de comprendre ça. C'est très important au plan critique. Et par le fait même, ça éclaire toute analyse. Vous voyez, on est tellement content d'analyser qu'on considère que l'analyse, c'est le réel. Et toute analyse, c'est l'intelligence qui l'a fait. C'est le fruit de la vie d'intelligence. L'analyse a un fondement réel. Mais la réalité n'est pas l'analyse. Ça à tout prix. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez plus tomber dans le piège de Freudien. Vous pouvez utiliser l'analyse. Il faut utiliser l'analyse. Les vrais analystes utilisent l'analyse. Ils savent que le réel est autre. Ils reviennent tout le temps au réel pour voir si leur analyse est vraie. Ils ne demeurent pas dans l'analyse comme si l'analyse devait mesurer le réel. Si l'analyse était réelle, l'analyse devrait mesurer le réel. C'est le réel qui mesure l'analyse. Et donc le réel est là pour relativiser l'analyse. Alors je reprends pour que vous voyez bien, parce que là il y a un petit tournant très intéressant et difficile, subtil, mais il est très intéressant. Alors il faudrait lire là les analyses critiques de la scolastique, parce qu'elles sont très intéressantes, elles sont fines souvent. Les analyses d'un Jean de Saint-Thomas face à Don Scott, parce que le grand ennemi c'est Don Scott. Aujourd'hui, Don Scott est tellement dépassé que Don Scott est un ami. C'est vrai, face à ce qui se dit aujourd'hui, Don Scott est... intéressant de voir la position de ton squat, la position des tenues. C'était très intéressant. Mais c'était pas toujours juste parce que c'était une position, vous voyez, scolastique avec Occam qui faisait que facilement on s'arrêtait à l'analyse, la considérant comme réelle. Alors je reprends. J'ai découvert le primat de l'appréhension comme le fruit d'une analyse. Je dis bien comme le fruit d'une analyse. Ceci a un fondement réel, mais ce n'est pas le réel. Vous ne saisissez l'appréhension qu'à travers le jugement. Donc vous vous arrêtez jamais à l'appréhension. L'appréhension, c'est le cyclope, vous comprenez? C'est le cyclope. Normalement, vous avez deux yeux. C'est pour ça que ça avait le nom et le verbe. Tandis que le cyclope, c'est cette espèce de vision, l'acuité, comme si l'acuité était saisie pour elle-même. C'est pour ça que je dis que c'est le cyclope. C'est un mythe, le cyclope. Séparer l'appréhension du jugement, c'est un mythe. C'est le mythe scolastique. Et on a cru que c'était réel. Alors, il faut saisir ça, que c'est une construction d'intelligence, que c'est l'intelligence qui analyse. C'est une merveilleuse analyse qui me fait poser l'intellect agent. C'est quand même intéressant de poser l'intellect agent. C'est quelque chose. Maintenant, j'essaie de comprendre le comment du jugement qui assume l'appréhension et qui fait que le fruit de l'appréhension, grâce au verbe, est saisi d'une manière concrète. Je passe donc de l'appréhension qui m'a montré l'universel. Ça, je suis bien obligé de l'accepter. L'universel, il existe dans ma connaissance. Il existe dans mon appréhension. C'est évident que toute ma vie intellectuelle présuppose à saisir l'universel. Il n'y aurait pas de science s'il n'y avait pas la saisie de l'universel. C'est pour ça que si je veux expliquer la science, je suis obligé de poser l'appréhension. Capital, ça. Condition sine qua non pour la science. La science donne des lois universelles. Tout le monde reconnaît ça. Elle cherche à donner des lois universelles. Donc l'universel est saisi au niveau de l'appréhension. C'est important, ça. C'est capital. Il ne faut pas diminuer l'appréhension. Condition sine qua non de toute ma vie intellectuelle. Et s'il n'y a pas de saisie universelle, il n'y a pas de vie intellectuelle. Condition sine qua non. Mais il ne faut pas demeurer dans la condition sine qua non. Comme si la condition sine qua non était la source et le principe et la cause. C'est une condition sine qua non. Donc, je réfléchis sur ce passage de l'universel au concret. Il se fait par le toucher, le jugement, qui atteint ceci est par le verbe. C'est le dynamisme du verbe qui me fait passer de l'universel au concret. Comment se fait ce passage? C'est parce que justement, le terme appréhendé signifiant saisie selon un mode universel provient d'une image et demeure toujours liée à l'image. Or, l'image me met en présence du ceci. L'image liée à la sensation me met tout de suite en présence de ceci. Donc, de la détermination. C'est donc